France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un homme devenu pour certains l'égal d'un dieu, Diego Maradona. Dès l'âge de 12 ans, si le jeune footballeur argentin n'est pas encore divin, il se fait prophète devant une caméra de télé. J'ai deux rêves dans la vie, jouer une Coupe du Monde et la remporter avec l'Argentine. Il pibe de oro, le gamin en or, le prodige précoce manque son rêve de peu en 1978. Le sélectionneur César Menotti l'écarte de l'équipe qui remporte la Coupe du Monde à domicile en Argentine, alors sous le joug de la dictature du général Videla. Mais Maradona se rattrape lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, et de quelle façon? Il est à l'Argentine ce que fut Pelé au Brésil et Cruyff pour les Pays-Bas, à la fois l'incarnation et l'artisan de la victoire. Il y a le maillot national, bien sûr, l'albicéleste, mais il y a la vie en club, 90% du temps de travail d'un footballeur. Le Barça d'abord, pour Maradona, mais surtout Naples. Son public, chaud comme la braise et passionné comme les habitants du quartier pauvre des Buenos Aires, la Boca, où l'Argentin a poussé comme une fleur sauvage qui la restera jusqu'à la fin de sa carrière. Naples et Maradona, c'est l'histoire d'une rencontre. C'est à Naples que Diego est devenu Maradona. Notre invité aujourd'hui, Geoffroy Garretier, journaliste sportif spécialiste foot. Il intervient dans différentes émissions du groupe Canal et en particulier auprès de notre confrère Éric Bénard, présentateur de Jour de Foot sur Canal Plus Foot. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, réalisation Coyenne Guyen et Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
5 juillet 1984, du côté de Turin, la Juventus, la Juve pour les intimes et les Italiens, scintille sous la houlette de son étoile, la star mondiale, Michel Platini, qui vient de remporter l'Euro avec l'équipe de France, capitaine virtuose de la meilleure équipe de l'histoire du football français à l'époque. Pendant ce temps, à 800 km au sud, dans la ville de Naples, sur les gradins du stade San Paolo, c'est l'ambiance de gala, jour exceptionnel. On s'impatiente, tout le monde veut voir le nouveau Messi, avec un E, sans E ce sera plus tard, au Barça, et aujourd'hui encore. Bref, les tifosi patientent avant de voir la star. Le président du Napoli, Corrado Ferlaino, tient à présenter sa nouvelle recrue aux journalistes. Et il savoure, le président, tellement les négociations ont été longues et le montage financier complexe. Au bout du compte, au bout de l'improbable, il a enfin réussi à enrôler El Pibe de Oro à la toute fin du mercato en provenance du FC Barcelone. Direction la salle de presse pour Diego Maradona. La pièce est située juste sous les gradins et le public réclame son nouveau héros. Diego doit d'abord répondre aux nombreuses questions. Voici celle qui va mettre le feu aux poudres. Est-ce que Monsieur Maradona sait ce qu'est la Camorra? Sait-il que l'argent de la Camorra est présent partout, même dans le football? Interloqué, Maradona ne sait pas quoi dire. Le président Corrado Ferlaino s'empresse alors de prendre le micro et sort de ses gonds. Mais comment ce journaliste ose-t-il? Quelle indignité! Alors il l'exclut de la conférence. Et pourtant, c'est la question. Comment, en effet, le modeste club de Naples a-t-il pu débourser la dizaine de millions de dollars pour s'offrir Maradona et réaliser le plus gros transfert de l'histoire? Les chèques à plusieurs millions de dollars, on connaît en Serie A, le championnat italien. En ce début d'année 80, c'est le meilleur championnat du monde. Mais jusqu'à maintenant, seuls les clubs du nord du pays et de la capitale ont sorti le chéquier. Michel Platini à la Juve, 4 millions. Zico à l'Udinese, 3 millions et demi. Falcao à l'AS Rome, 5 millions. Et en cette année 84, deux autres stars signent en même temps que Maradona. Karl-Heinz Rummenigge à l'Inter de Milan, 5 millions. Socrates à la Fiorentina, 3 millions et demi. Les Napolitains n'osaient même pas rêver d'une star dans leur club. Ils décrochent la plus grande après Platini. À la rue de la ville, on vend déjà des objets en tout genre à l'effigie de l'Argentin. Antenne 2 raconte la présentation du joueur dans son JT.
Le nouveau roi de Naples, Diego Ier de la dynastie des Maradona, son grand-père était napolitain, n'est donc pas descendu du ciel en hélicoptère, comme c'était prévu. Les Napolitains auraient-ils retrouvé le sens de la mesure? Il y avait bien 70 000 supporters au stade de San Paolo, 15 francs la place au tarif officiel, 150 francs au marché noir. C'est sans doute pour se faire pardonner cette messe débridée que les organisateurs ont décidé de verser la recette à des œuvres de bienfaisance. Mais quand Maradona jouera en octobre, quelle recette en perspective? Il est vrai que c'est à Naples qu'il y a le plus grand nombre de spectateurs pour le football. Mais les recettes sont les plus basses d'Italie. Ne pas payer sa place, c'est l'un des métiers de Naples.
Les plus chanceux ou les plus malins se retrouvent donc dans le stade. Alors imaginez, 70 000 spectateurs réunis, excités, même pas pour un match, non, juste pour voir Maradona faire quelques jongleries. C'est comme si une soprano remplissait un stade pour quelques vocalises. Les supporters ont déployé des banderoles où l'on peut lire « Diego fait nous rêver » ou encore « Diego, on t'aime ». Alors, lorsque Maradona foule la pelouse du stade, les tribunes bleues azur s'enflamment. Oubliez le public du FC Barcelone, son ancien club et ses supporters catalans qui le trouvaient petit, un peu gros et typé. Quel mépris! Et puis ses mauvais souvenirs, sa blessure à la cheville, la bagarre générale contre l'Atlético Bilbao en finale de la Coupe du Roi. Il est temps pour Diego de tourner la page et de quitter la Catalogne. Ici, dans la cité napolitaine, le peuple est heureux et fier d'accueillir l'enfant des bidonvilles de Villa Fiorito dans la banlieue de Buenos Aires. Maradona se lance dans une série de gestes techniques et tente quelques mots en italien. Le public est aux anges. Petite revue de presse sur France Inter.
La venue de Maradona doit relancer le moral de la ville, donc des affaires et de la politique, lit-on dans le monde. Idée folle ? Peut-être. En tout cas, l'acquisition de Maradona a été un coup de génie. Il fallait que la nouvelle recrue coûte très cher, anormalement cher, pour que la fierté napolitaine y trouvât son compte. Il fallait surtout que la vedette frappât les Napolitains au cœur. Maradona les a foudroyés d'amour, parce qu'il est plus napolitain que les Napolitains. Aujourd'hui, dans n'importe quelle famille napolitaine, grâce à Diego Maradona, tout le monde peut à nouveau rêver. Et le rêve, c'est bien connu, n'a pas de prix.
Quelle fierté pour les Napolitains. La ville la plus laborieuse d'Italie, cette ville au caractère si trempé, recrute le footballeur le plus cher de l'histoire. C'est un message d'espoir et de lendemain qui chante pour cette ville absolument fascinante, marquée par l'épidémie de choléra de 1973 et le tremblement de terre du 23 novembre 1980. Au pied du Vésuve, la ville n'est guère tranquille. Tous les Napolitains en rêvent désormais. Maradona va leur donner une revanche sur les villes du Nord qui les méprisent tant. Le club napolitain passe de 30 000 à 70 000 abonnés. C'est septembre 1984. C'est le début du championnat italien, le modèle pour le monde entier, le pays du football. Naples se déplace à Vérone. Ici, sur les nords de l'Adige, contrairement au sud de l'Italie, le miracle économique a eu lieu. Dans les tribunes, le public de l'Hellas Vérone, réputé pour être le plus xénophobe du pays, a préparé des banderoles pour Maradona et ses coéquipiers. « Bonjour les analphabètes, ça vous plaît la civilisation » peut-on lire. Maradona découvre la morgue des supporters adverses. Mais pour ce premier match, face à Vérone, futur champion d'Italie, il ne peut rien faire. C'est même la douche froide. Naples s'incline 3-1 et l'Argentin réalise peut-être à ce moment-là qu'il a signé dans une équipe qui se battait la saison précédente pour éviter une relégation en série B. Match après match, le Napoli enchaîne les défaites et végète dans les bas-fonds du classement, 13e sur 16. À la trêve, le bilan est famélique, 9 points seulement. Une réunion de crise est organisée entre la direction et les joueurs et l'électrochoc semble fonctionner. L'équipe, allez savoir pourquoi, ne perd plus et engrange les points avec des victoires et des matchs nuls. 24 février 1985, Naples affronte la Lazio de Rome et Maradona est en pleine forme. Sa première tentative est une action de la main, mais le ballon ne rentre pas cette fois. La main de Maradona, celle que tout le monde connaît, nous y reviendrons plus tard, ça n'est une autre. Ce jour-là, il inscrit un premier but, plein d'opportunisme, tel un renard des surfaces. Et il ne tarde pas à inscrire un doublé d'un lob millimétré qui frôle la barre transversale, un bijou. Mais ce n'est rien, à côté de son but du triplé, un corner, entrant en pleine lucarne. Le Stade San Paolo entre en ébullition. Naples a pris 11 points en 2 mois pour finalement terminer la saison à une honorable 8e place. Maradona a trouvé sa place dans l'équipe et dans cette ville. Un journaliste l'interroge à la télé italienne sur son intégration justement dans l'équipe.
Je pense que toi, tu es meilleur à Naples qu'à Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, je suis content d'être venu à Naples. Car je suis très heureux ici et je me bats pour que Naples devienne un grand club. Quand je suis arrivé, j'ai vu que l'objectif était d'éviter la relégation. Et cette année, c'est différent.
Maradona nourrit les ambitions pour la saison 85-86 les plus hautes. Plus question de jouer le maintien, il faut maintenant défier les équipes du Nord. Un chiffre pour comprendre la domination de ces clubs sur le championnat italien. Sur 84 Scudetti, depuis la création du championnat d'Italie, les équipes du Nord en ont remporté 80. La capitale Rome, 3, 2 pour l'AS Roma et 1 pour la Lazio. Seul un autre club est parvenu à décrocher le titre, Cagliari. Tout le sud de l'Italie attend donc son Scudetto. Et pour cela, il faut déjà battre les équipes favorites. 3 novembre 85, Naples affronte la Juventus, auréolée de son titre de champion d'Europe, remporté 5 mois auparavant contre Liverpool. Dans le stade San Paolo, les supporters de la Juve entonnent un chant qui dit « Ils font fuir même les chiens, les Napolitains. Ils ont le choléra et même les tremblements de terre. » Ils se lavent dans la rivière, Napoli caca, Napoli choléra, vous êtes la honte de l'Italie. Napolitain, vous allez bosser en continu, Maradona vous coûte la peau du cul. Un chant épouvantable qui donne la rage à Maradona, mais qui va se transformer et qui va transformer cette haine contre Naples en force de frappe. Dans ce match très disputé, les fautes s'enchaînent et le score reste vierge. Mais à la 72e minute, sur un coup franc indirect dans la surface, un joueur de Naples glisse le ballon à Maradona qui enroule sa frappe et se loge dans la lucarne. Score final, 1-0. San Paolo chavire. Bilan chez les supporters, 5 évanouissements, 2 infarctus. Quant à Maradona, il exprime à la télé sa fierté d'avoir apporté cette victoire au peuple napolitain.
Maradona, vous êtes habitué à marquer, mais ce soir, quand vous avez inscrit ce but contre la Juventus et que vous avez couru vers le public, à quoi avez-vous pensé ? De quelle couleur est ce but ?
Ce but est bleu-azur, en hommage au peuple de Naples. Parce que si on ne vit pas à Naples, on ne peut pas imaginer toutes les horreurs que les Napolitains ont entendues cette semaine. C'est pour ça que ce but et cette victoire, les Napolitains le méritent.
Maradona donne tout pour Naples et les supporters le lui rendent bien. Depuis cette victoire contre la Juve, de nombreux Napolitains ont placé une photo de Maradona chez eux, souvent à côté de celle du Christ. Adulé, il ne peut plus sortir dans la ville la journée sans courir le risque de déclencher un mouvement de foule ou une émeute. Alors sa fiancée Claudia, rencontrée quand il avait 16 ans, lui donne la permission de sortir la nuit. Son club également lui accorde un quartier libre du dimanche soir jusqu'au mardi. Maradona jongle alors entre les maisons de passe et les boîtes de nuit et joue avec les lignes blanches de la cocaïne. Il fricote également avec le clan Giuliano, une branche de la Camorra qui règne sur une partie de la ville. Maradona est protégé, il n'a rien à craindre. Et puis, s'il force un peu trop sur la poudre avant un match, un coéquipier est toujours là pour lui fournir un flacon d'urine afin de passer à travers les contrôles antidopage. Côté sportif en tout cas, tout va bien. Naples finit 3e du championnat et Diego termine meilleur buteur. Il peut s'envoler l'esprit serein vers le Mexique pour disputer sa 2e Coupe du Monde. 31 mai 86, début de la compétition. L'Italie, tenante des titres, première équipe mondiale, affronte la Bulgarie pour le match d'ouverture.
Dans moins de 11 heures maintenant, l'équipe de France de football débutera son premier match contre le Canada au Stade de León. Hier, vous le savez sans doute, le premier match de ce mondial qui a opposé l'Italie à la Bulgarie s'est soldé par un match nul, un partout. À 20h ce soir, c'est l'Espagne qui affrontera le Brésil, une très belle affiche. Pour ceux qui n'aiment pas le football, tout cela peut vous donner une indigestion. Mais avouez que cela vaut mieux que la tourista dont ont souffert plusieurs de nos valeureux tricolores.
Qualifiée de justesse, l'équipe d'Argentine n'a pas le statut de favori pour cette édition 86. Mais pour Maradona, c'est une occasion unique. après la non-sélection de 78 et sa contre-performance de 82, c'est donc à Maradona qui veut prouver et tout donner pour sa sélection. Avant le début de la compétition, la presse a interrogé trois numéros 10 emblématiques avec la même question. Quelle est votre ambition pour cette Coupe du Monde? Le Brésilien Zico. Je reviens d'une grosse blessure, je veux juste faire de mon mieux pour aider l'équipe à performer. Michel Platini. Je sors d'une saison stressante à Juventus, je ne suis qu'un joueur parmi d'autres. Diego Maradona. Je veux prouver que je suis le meilleur joueur du monde. Voilà qui est dit. Le rendez-vous est pris. Et quoi de mieux qu'un quart de finale Argentine-Angleterre pour le prouver. 4 ans après la guerre des Malouines, gagnée par le Royaume-Uni de Margaret Thatcher, c'est l'occasion pour les Argentins de laver l'affront sur le terrain. La presse monte en épingle cette rencontre où la géopolitique s'invite sur la pelouse. Pascal Delannoy est en direct de Londres pour France Inter.
Un récent sondage a montré que les trois quarts des Britanniques souhaitent que des discussions s'ouvrent enfin avec le nouveau pouvoir démocratique en place à Buenos Aires. Eh bien, pas de doute que de ce point de vue, les 90 minutes de ce soir vont beaucoup compter si tout se passe bien. Et peu importe le résultat, l'espoir d'un règlement sera à nouveau possible. Voilà pour l'enjeu de ce match, sans oublier l'essentiel pour l'Angleterre tout de même, une place en demi-finale et la mise hors de combat de la dernière équipe sud-américaine encore en piste dans ce mondial. Comprenez que pour des millions d'amoureux du football de ce pays, c'est le jour le plus long qui se termine et la soirée la plus difficile qui commence.
Pendant la première mi-temps, le match est fermé. Les joueurs souffrent sous la chaleur caniculaire du Mexico. Et Maradona prend de nombreux coups. Le défenseur anglais Terry Fenwick explique des années plus tard à quel point les chevilles de Maradona ont servi de paillasson à ses adversaires.
Il avait multiplié les dribbles, les talonnades, les remises acrobatiques et surtout les raids en solo. Comme s'il avait voulu baliser le truc en nous testant. Puis il nous épuisait. C'était d'autant plus incroyable qu'il s'était fait sécher dès les premières prises de balles. Moi-même, je lui avais mis plusieurs gros tampons. Ça m'a valu un jaune direct d'ailleurs. En fait, je vais vous dire, mais je devrais pas. Durant ce match, on lui en a mis dans le buffet comme rarement un joueur en a reçu dans un match de ce niveau. Et ce type est constamment revenu à l'abordage, à chaque fois plus fort, plus rapide. Il est vraiment costaud. Une vraie boule de muscle.
Une boule de muscle et une tête pleine de malice. À la 51e minute, Maradona débloque le match. Sur un ballon contré par un défenseur anglais dans la surface de réparation, il s'élance, saute et marque face au gardien anglais qui a bien vu que Maradona a marqué de la main et il pense dur comme fer que le but sera refusé. Mais le numéro 10 argentin court à travers le stade pour célébrer l'ouverture du score en surjouant la joie. L'arbitre hésite sous la pression des protestations des joueurs anglais avant de finalement valider le but. Certains, beaucoup même, hurlent à la triche. Ce à quoi Maradona répond, ce but je l'ai marqué un peu avec la tête et un peu avec la main de Dieu. Et ce geste devient alors, et pour l'éternité, la mano de Dios, la main de Dieu. Dans son autobiographie, Maradona confie, c'est venu tout seul, comme sur les terrains de quartier. Que voulez-vous, je mesure 1m66 et Shilton 1m85, je n'avais aucune chance. Alors j'ai sauté comme une grenouille et j'ai fait tac avec le poing gauche. Faut avouer, à demi pardonné. Enfin, peut-être pas pour les Anglais. Mais que dire et que faire ce jour-là face à un Maradona qui seulement 4 minutes après son but de la main se lance dans une traversée du terrain en éliminant 5 joueurs anglais pour inscrire ce qu'on appelle officiellement le but du siècle. Voici le commentaire du journaliste sportif Victor Hugo Morales, une pépite d'exaltation et de poésie.
Ricky engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero, va a tocar para Borrachaga siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Mais quel chevauché incroyable de Maradona, le cerf-volant cosmique. De quelle planète viens-tu pour que tout un pays se retrouve le poing levé à soutenir l'Argentine? Merci mon Dieu pour le football et pour Maradona. Oui, vous avez bien entendu. Merci mon Dieu. Et ce n'est qu'une partie de ce commentaire d'anthologie. Après avoir livré ce match incroyable, commenté, analysé, disséqué des millions de fois par les fans de football du monde entier, Maradona n'est plus un joueur, c'est un mythe moderne. À la fois ange et démon, tricheur et génie, on adore ou on déteste. Quelques jours plus tard, on l'a peut-être oublié, le nouveau meilleur joueur du monde livre une prestation exceptionnelle contre la Belgique en demi-finale en inscrivant un doublé plein d'inspiration, direction la finale. Maradona voulait affronter son rival de la Juve, Michel Platini. Il aura affaire à celui de l'Inter, Karl-Heinz Rummenigge. Le 29 juin 1986, devant les 114 000 spectateurs du stade Azteca de Mexico, Maradona délivre une passe décisive au milieu du FC Nantes, Jorge Bruchaga, qui inscrit le but du 3-2 à 5 minutes de la fin du match. L'Allemagne est battue. Et l'Argentine est championne du monde. Pour la deuxième fois en 8 ans. Et cette fois, Diego est de la partie. 13 ans après avoir exprimé ses vœux à la télé argentine, El Pibe de Oro réalise son rêve, remporter une Coupe du Monde. À la fin du match, il glisse à l'oreille du masseur di Napoli qui l'a fait venir au Mexique. Maintenant, je veux être champion d'Italie avec le Napoli.
En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Septembre 86, retour à Naples pour Maradona avec tous les excès qui vont avec. Cocaïne, prostituée, mafia. Dans la ville italienne, les supporters fêtent le retour de leur idole, fraîchement championne du monde. Dans les rues napolitaines, une blague circule. Tu connais la différence entre Jésus et Maradona? Non? Eh bien, les miracles de Maradona, eux, ont tous été authentifiés. En ce mois de septembre 86 à Naples, ce n'est pas un miracle de Maradona qu'il faut authentifier, mais la naissance d'un enfant. Devant les caméras de télé, à la maternité, en compagnie du nouveau-né à qui elle a donné naissance, une certaine Cristiana Sinagra, une amie de la sœur de Maradona, prétend que le footballeur argentin est le père de son enfant.
Dans la chambre 509 d'une maternité napolitaine, Cristiana Sinagra, 22 ans, diplômée en comptabilité, a donné naissance ce matin à 11h15 à un petit garçon baptisé Diego Armando Junior. C'est un prénom très populaire à Naples. Pourquoi lui avoir donné ?
Parce qu'il est le fruit de ma relation avec Diego, le joueur de Naples.
Diego Armando Maradona ?
Oui.
Le joueur de Naples ?
Oui.
Quand vous êtes-vous rencontrés ?
En décembre 85.
Et combien de temps a duré votre relation ?
Jusqu'en avril 86.
Dans une autre séquence diffusée par la RAI, Cristiana Sinagra passe au détecteur de mensonges sur un plateau télé avec des questions telles que « Quand l'enfant a été conçu, avez-vous dit à Diego Maradona que vous étiez en période d'ovulation ?»« Oui. » Diego Maradona est-il le père de votre enfant ? L'expert, un ancien analyste de la CIA, analyse les résultats. Selon lui, Christina dit la vérité. Alors le présentateur poursuit. Nous avons fait ce soir le portrait d'un champion, d'un grand footballeur, mais d'un homme discutable. Demain, la presse pourra titrer « Grandeur et misère d'un champion ». Interrogé avant un match du Napoli, Maradona refuse de répondre aux questions d'Arai. Et il lance au journaliste « Voyez ça avec mon avocat » et il déclare publiquement « Ce qui a été raconté par cette fille est totalement faux. Cet enfant n'est pas de moi. » Pourtant, un juge donnera raison à Cristiana. Cet enfant est bien de Maradona, la preuve. L'index du bébé a la même longueur que le majeur, l'une des caractéristiques de la famille Diego. C'était avant les tests ADN. À la même époque, sa fiancée Claudia est enceinte, de 2 mois. Et la presse fait ses choux gras de cette histoire d'enfant légitime et d'enfant morganatique. Maradona a le moral dans les chaussettes. Son préparateur physique Fernando Signorini confie.
Cette naissance a changé quelque chose chez Diego. Cet épisode l'a traumatisé. Je suis persuadé que c'est une des raisons qui l'ont poussé à s'évader encore plus. Avant cette naissance, on voulait lui faire croire qu'il était omnipotent, voire intouchable. Diego Junior lui a prouvé que c'était faux. Il a perdu sa spontanéité et sa joie. Il est devenu beaucoup plus introspectif et tourmenté. Il s'est réfugié dans le jeu, dans le football. Le terrain restait son monde, sa bulle d'oxygène dans laquelle il sentait son pouvoir.
Et Maradona qui se réfugie dans le football, cela fonctionne à merveille. Match après match, en effet, le club grimpe au classement. Le 9 novembre 86, le Napoli bat la Juventus 3-1 à Turin, s'il vous plaît, et s'empare de la première place des classements, seul en tête. À la question d'un journaliste, un supporter napolitain confie « Naples n'a jamais été premier, alors on n'a jamais ressenti ça. Là, on va découvrir. » En Italie, le reste du pays continue de penser que le titre se jouera entre la Juve de Platini, l'Inter de Milan et la Roma de Rome, bien sûr. Mais le Napoli, emmené par Maradona et renforcé par le jeune défenseur Ciro Ferrara, ainsi que par 2 recrues talenteuses, le bien nommé Fernando de Napoli et l'attaquant Andrea Carnevale, ne lâche plus sa première place. Le 2 avril 1987, Claudia Vinafale, la femme de Maradona, donne naissance à Dalmia, sa petite fille. Elle va accoucher à Buenos Aires car Diego veut que ses enfants naissent en Argentine. Pendant ce temps, le footballeur en profite pour faire la fête et fréquenter l'Albergo Paradiso avec ses nombreuses prostituées cubaines. L'une d'elles témoigne dans le magazine SoFoot.
Diego paraissait avoir une véritable prédilection pour les femmes cubaines. Il était un client régulier qui pratiquait l'alternance entre les filles. Entre nous, on appelait sa préférée du moment le parfum du mois. Mais ton tour revenait régulièrement si tu avais la chance de lui plaire. Bien évidemment, il laissait des pourboires royaux et la direction ne cessait de nous laisser entendre qu'il ne fallait surtout pas qu'il aille voir ailleurs. On se devait d'être discrète vis-à-vis de l'extérieur. Diego était un Sud-Américain type mélange de macho et d'homme qui laisse parler sa féminité. Il était respectueux des femmes, même si l'histoire avec son fils naturel l'avait marqué. Il m'avait offert des sous-vêtements jaunes et bleus, et sans me le dire, je voyais qu'il avait envie que je les porte. J'ai appris ensuite qu'il s'agissait des couleurs de Boca Juniors, le club de son cœur. Sinon, et comme il y a prescription, il aimait parfois que je l'attache.
Mai 87, la fièvre monte dans toute la ville. Sur les routes, ce sont des défilés de drapeaux, des concerts de klaxons. Naples et tout le sud de l'Italie n'a jamais été aussi proche de son premier Scudetto. Le titre de champion d'Italie qui, à cette époque bénie, voulait dire meilleur club du monde. Dans le stade bleu azur, comme la couleur du maillot napolitain, les supporters sont chauffés à blanc. Un succès contre la Fiorentina et c'est le Scudetto assuré. Dans les tribunes, Don Diego Maradona, le père du prodige, communie avec les supporters. Ferveur et dévotion. À la 29e minute, André Carnevale ouvre le score pour le Napoli, le Stade Chavir. Mais 10 minutes plus tard, un jeune attaquant de 20 ans, un certain Roberto Baggio, futur ballon d'or, marque son premier but en Serie A sur un coup franc magnifique. un partout à la pause, San Paolo s'apprête à vivre la plus longue deuxième mi-temps de toute son histoire. Dans les tribunes, les supporters ont leur poste radio collé aux oreilles. L'Inter de Milan est mené au score à Bergame et la Juve est tenue en échec à Vérone. Naples est donc virtuellement champion d'Italie. Assez ironiquement, le salut des Napolitains viendra de l'Hellas Vérone, qui ouvre le score contre la Juventus en deuxième mi-temps. Les joueurs du Napoli, eux, ne parviennent pas à marquer. À la 79e minute, le stade retient son souffle, les Turinois viennent d'égaliser. L'Inter étant toujours mené au score, c'est le début de 10 minutes d'angoisse et de suspense. Et soudain, c'est l'explosion dans les tribunes napolitaines. Les supporters apprennent à la radio que la Juve a fait match nul. Le Napoli est donc champion d'Italie. Ivre de joie, Maradona se lance dans un tour d'honneur et jette sa chaussure dans une tribune comme une offrande à son public qui lui a tant donné. Il confie sur le terrain sa joie à un journaliste.
C'est la plus grande fête de ma vie.
Ce n'était pas la Coupe du Monde ?
Si, mais je n'étais pas chez moi, avec des tifosi comme ça.
De retour dans les vestiaires, Maradona s'amuse à interviewer ses coéquipiers pour la télé. On ouvre la champagne, on chante à la gloire de Diego. Dans toutes les rues de la ville, on reprend en cœur ce chant de supporters qui en français donne « Hey maman, sais-tu pourquoi j'ai le cœur qui bat ? J'ai vu Maradona, j'ai vu Maradona. Hey maman, je m'en suis amouraché. » Jour et nuit, les Napolitains fêtent le titre. Sur les murs de la cité, on a écrit « Le paradis peut attendre, nous l'avons déjà connu. » Deux mois plus tard, le Napoli s'offre le doublé champion de la Coupe d'Italie. La ville ne se remet plus de ses émotions et fête ses titres tout l'été. Des émotions, la triplette Magica pour Maradona, Giordano, Carreca va en offrir d'autres à Naples dès l'année suivante. En 1988 et 1989, le club termine deuxième du championnat. Il se console avec une Coupe de l'UEFA, son premier titre européen, le seul jusqu'à aujourd'hui. Durant la célébration du trophée à Stuttgart, Maradona, bien entamé par l'alcool et la drogue, se confie à une télé napolitaine à propos de sa consommation de cocaïne. Et il dit « Oh, vous savez, j'ai juste le même vice que de nombreux chefs d'entreprise. » En cet été 89, c'est justement un chef d'entreprise bien connu, Bernard Tapie, qui tente de le recruter à l'Olympique de Marseille. L'affaire ne se conclut pas, car le président de Naples, Corrado Ferlaino, qui avait pourtant promis un bon de sortie pour Maradona en 4 trophées européens, bloque toute tentative de recrutement. Celle de Tapie donc, mais également celle de Silvio Berlusconi pour le Milan AC. L'avenir donne raison au président napolitain. La saison 89-90 est l'année du second Scudetto pour le Napoli. Et c'est reparti pour des semaines de fête. Sauf que cet été-là, l'Italie organise la Coupe du Monde. La squadra azzurra est favorite, mais le hasard réserve parfois de drôles de surprises. Et il se trouve que notre histoire se termine là où elle a commencé, au stade San Paolo de Naples. Nous sommes le 3 juillet 1990. L'Italie, on l'a dit, porte le maillot le plus prestigieux d'Europe à l'époque, bleu comme l'azur, sans la moindre fioriture, d'une évidente élégance, un bleu uni flanqué de l'écusson vert-blanc-rouge. Pour autant, cette équipe n'est pas populaire hors d'Italie. On trouve son jeu trop défensif, cynique, peu spectaculaire, la faute au Catenaccio, ce jeu cadenassé qui donne une si mauvaise réputation. Les Italiens jouent chez eux. Tout est réuni pour qu'ils s'inscrivent une troisième fois au palmarès de la Coupe du Monde avec une troisième étoile. En demi-finale, ils affrontent l'Argentine de Maradona. Ainsi en a décidé le sort, le tirage au sort et bien peu doute de la victoire de la squadra. Le scénario est écrit d'avance, mais le terrain, comme parfois en football, et c'est tant mieux qu'il y ait des surprises, va en décider autrement. Ce jour-là, en effet, El Pibe de Oro joue dans son jardin, à Naples. Et ça, ça change tout.
Entre Madonna et Maradona, les amateurs de spectacle ont l'embarras du choix. Madonna, c'est ce soir à Paris-Bercy, premier concert. Maradona, c'est aussi ce soir à Naples, première demi-finale de la Coupe du Monde de football. Et quelle demi-finale ? Argentine-Italie, Diego Maradona, roi de Naples, contre Toto Schillaci, roi de Sicile. Ambiance affolante au stade San Paolo à 1h du coup d'envoi. Du jamais vu en Coupe du Monde, Jean-Michel Descroix, les deux équipes joueront pour ainsi dire à domicile.
Absolument. L'ambiance pour l'instant d'ailleurs est très colorée, déjà beaucoup de drapeaux jaunes, des drapeaux verts, blancs et rouges, les couleurs de l'Italie. Et c'est donc un cruel dilemme ce soir pour les tifosi napolitains qui vont crier, encourager leur équipe d'Italie, mais qui auront quand même une petite pensée pour Maradona.
Maradona le sait bien. Il a d'ailleurs déclaré avant le match, durant 364 jours de l'année, les Italiens traitent les Napolitains comme de la merde. Et là, ils se souviennent qu'ils vivent en Italie et exigent leur soutien. La ficelle est un peu grosse, non? Dans les tribunes de San Paolo, pourtant, on peut lire une banderole. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie. Le match dure jusqu'au bout du suspense. Et au tir au but, l'Argentine élimine l'Italie. Coup de tonnerre. L'Italie passe à côté du titre, victime de ses déchirements intérieurs. Le jour de la finale à Rome, l'hymne argentin est sifflé par le public romain. Maradona marmonne, hijo de puta. Il a compris que l'Italie allait lui faire payer cette élimination en demi-finale. De fait, l'Argentine perd, Maradona est inconsolable. Et l'Allemagne rafle la mise. La Mannschaft gagne la Coupe du Monde promise à l'Italie qui lui rendra l'exacte monnaie de sa pièce en remportant la Coupe du Monde 2006 à Berlin, sous la houlette de Buffon, Cannavaro et Pirlo. Le 17 mars 1991, Maradona est contrôlé positif à la cocaïne. Suspendu, il quitte Naples par une porte dérobée de l'aéroport. Il aura vécu là-bas les plus belles années de sa carrière. Mais plus que tout, il aura su rendre fiers les Napolitains, lui l'enfant des bidonvilles, le dernier roi de Naples.
Como es, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión, para gritarles a la FIFA, que yo soy.
Aujourd'hui, Diego Maradona, notre invité Geoffroy Garretier. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste sportif, spécialiste foot, vous aimez aussi l'analyse du foot à travers l'époque pendant lesquelles se jouent les matchs, la société. Vous aimez aussi élargir au-delà du simple jeu. Vous intervenez dans différentes émissions du groupe Canal et en particulier auprès de notre confrère Eric Bénard, présentateur de Jour de Foot sur Canal plus Foot. Alors, quand la Juve, la AS Roma ou l'une des deux équipes milanaises remporte le Scudetto, le championnat italien, ça ne vous fait pas bouger un sourcil ici en France. Mais alors, quand Naples décroche le titre, comme cette année, on en parle. Pourquoi ?
Déjà, la rareté crée l'événement.
Déjà, oui, un seul titre.
Naples n'avait pas été champion depuis 33 ans. Et entre-temps, hormis la Sampdoria jeune en 91 et les clubs romains Lazio en 2000 et la Roma en 2001, évidemment, les trois clubs que vous avez cités, c'est-à-dire la Troïka du foot italien, a tout raflé. Et si vous prenez d'ailleurs le foot italien depuis 1929, c'est-à-dire depuis la création du championnat pro avec une poule unique, les trois clubs, donc la Juve, le Milan et l'Inter, la Sainte Trinité, ont raflé 74% des titres possibles.
Ah ouais.
Donc forcément, quand un autre obtient un titre, c'est l'événement. Alors surtout, bien sûr, c'est Naples, puisque Naples était tombé tout au fond. Parce que Naples a été le club de Maradona, évidemment, on en a parlé, vous en avez parlé, et que Naples n'est pas un club tout à fait comme les autres. Mais on ne peut pas enlever de cette analyse le fait que c'est une rareté d'échapper au pouvoir des trois grands du Nord.
C'est clair. Deuxième point, vous le disiez, Naples n'est pas tout à fait une équipe comme les autres. Qu'est-ce qu'il faut entendre ?
Ben, Naples, déjà, n'est pas une ville comme les autres.
Ah oui.
Et je regrette d'ailleurs que quand on évoque Naples sur le plan du foot, on se limite au conflit entre les Terroni du sud et les riches et les milliardaires du nord. C'est évidemment pas ça. Naples, pour tous ceux qui y ont été et j'en fais partie, est d'avant tout un choc visuel, culturel, sensoriel. C'est un site extraordinaire avec une histoire millénaire. Parce que quand on parle de Naples, on peut parler de la sirène Partenope, on peut parler de la villa de Lucullus sur le Monte Echia. On peut parler aussi de l'aventure de Garibaldi et d'Émile qui débarquent à Naples pour réunifier l'Italie. On peut parler de milliers de choses.
On peut parler de la ville Tolède et les Sassis qui partent de la ville Tolède.
On peut parler de cette splendeur. Voilà. On peut parler du stade San Paolo, évidemment. Voilà. Mais Naples n'est pas tout à fait comme les autres parce que Naples a été le club de Maradona. Voilà. Ça, c'est une évidence.
C'est un peu le Marseille italien.
Ouais, c'est le Marseille italien. D'ailleurs, Maradona a failli partir à Marseille, ça ne s'est pas fait. Ça lui a beaucoup coûté parce qu'il voulait échapper à l'emprise de Naples, de la cocaïne et de ses mauvaises années. Mmh. Mais Naples, en termes de site, de passion, ce côté sud-américain ressemble beaucoup à Marseille, avec la dimension en plus qui est la folie, la science, la démesure du foot italien.
Est-ce qu'il y a une ambiance particulière au stade San Paolo de Naples? Parce qu'on a tendance à le dire pour beaucoup de stades. Mais est-ce que là, il y a vraiment une spécificité?
Oui, il y a une façon de chanter, de vivre, de vibrer pendant le match qui me rappelle beaucoup l'Amérique du Sud. Je me souviens très bien, j'étais à San Paolo pour fin 2010-2011 pour un match entre Naples et l'Inter. Un match qui ne donnait pas le titre à Naples, mais qui lui donnait un accès à la Ligue des Champions la saison suivante. C'était la première fois que ça se produisait depuis la saison 90-91, après le dernier titre sous Maradona. Et sincèrement, on en a vu les matchs, on était dans beaucoup de stades, on connaît un peu les ambiances, y compris sud-américaines, mais ce que j'ai ressenti ce soir-là, c'était de l'ordre presque de l'irréel, tellement la ferveur dépassait le cadre du stade. On avait le sentiment que toute la ville, et de même toute la région, chantait dans les tribunes du San Paolo pour finalement cette renaissance ou ce risorgimento, comme on dit là-bas, d'une équipe qui avait encore une fois touché le fond, qui jouait en troisième division quelques années plus tôt.
Ouais.
Vous voyez, et donc le retour de Naples aujourd'hui au sommet du foot italien, c'est un retour de nulle part, un retour d'enfer, grâce notamment à Aurelio De Laurentiis, qui est l'actuel patron du club.
Et qui vient pas de Naples d'ailleurs.
Non.
Je crois que c'est un Romain ou c'est un Milanais.
Il est pas de Naples. Oui. Même si dans sa famille il y a des Napolitains, mais c'est pas comme Corrado Ferlaini ou l'ancien patron.
Nous venons de raconter l'histoire de Maradona dans cette émission. Si je vous dis Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, les quatre meilleurs joueurs de l'histoire du football, on est raccord sur ce point? Allez-y, c'est intéressant.
D'abord, j'aime pas tellement cette classification.
Oui,
parce
je
que
sais bien.
Elle va, alors c'est toujours un débat éternel. On adore ça, nous les journalistes et les amoureux du foot, classer l'inclassable. Cruyff est un peu à part dans cette histoire parce que il a pas gagné la Coupe du Monde.
Non,
lui.
C'est vrai. Il a influencé le football.
Mais il a
tout
influencé
autre.
Le football comme joueur et comme entraîneur. Mais on pourrait rajouter Garrincha, on pourrait rajouter Di Stefano. Il y a tous ceux qu'on n'a pas vu jouer, Leonidas. Voilà. Maintenant. Si vous me dites, on va partir sur ces quatre-là, j'accepte.
Vous achetez. Okay. Vous acceptez. Alors, après le Barça, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, Maradona choisit Naples. On est en 1984. Alors, bon, c'est une bonne équipe italienne, certes, mais au palmarès, somme toute modeste en Coupe d'Europe des clubs. Un titre seulement, et encore, pas dans la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, non. La Coupe de l'UEFA, c'était en 89, avec Maradona, justement. Pourquoi ce choix qui paraît surprenant comme ça, du Barça à Naples ?
Alors, je fais peut-être une petite correction.
Oui,
Maradona arrive au Barça, le Barça est encore une promesse. Le Barça n'est pas le Real Madrid, le Barça n'est pas l'un des plus grands clubs du monde. Le Barça est le symbole de la Catalogne qui est en train de bouger, la Movida, cette position anti-franquiste qu'il a toujours plus ou moins eue, même s'il ne faut pas non plus que caricaturer. Mais le Barça n'a jamais gagné, à ce moment-là encore, la Coupe d'Europe des clubs champions.
C'est vrai, c'est vrai.
Le Barça a gagné des Coupes des Coupes, mais qui était la petite Coupe d'Europe, des Coupes de Ville de Foire, qui était une Coupe non officielle.
Oui.
Le Barça se dit, avec Maradona, on va faire quelque chose de grand, on va devenir grand, l'égal du Real, mais ils ne savent pas comment traiter Maradona. Ils ne savent pas comment le mettre en situation de gagner. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez dit dans le récit sur Maradona que César Luis Menotti avait écarté Maradona de la Coupe du Monde 78. Mais c'est vrai que c'est César Luis Menotti qui dirige le Barça quand Maradona y est. Et en fait, la greffe ne prend toujours pas.
Mmh.
Et donc, quand Maradona quitte le Barça, c'est avec évidemment de la frustration des deux côtés. Et il arrive à Naples, alors pour des bonnes raisons, qui est de faire grandir Naples, mais aussi des mauvaises raisons qu'on connaît aujourd'hui, qui est son addiction à la cocaïne, qui côté mafia dit tiens, il y a un truc à faire. Il y a aussi une possibilité de faire du business, y compris du business occulte, hein, puisque c'est un peu le royaume de Naples, c'est vraiment la marque du marché noir. Et puis, il y a une aventure qui finalement lui ressemble, c'est-à-dire celle d'être un outsider. Maradona, il a dit petit qu'il voulait gagner la Coupe du Monde, mais il a toujours été un outsider. Il a joué à Boca Junior, qui était le club populaire de River Plate et Argentinos Junior avant. Il est celui du peuple que les riches porteños, comme on dit les habitants de Buenos Aires, regardent un peu en se pinçant le nez, voyez. C'est quelqu'un de spécifique, Maradona. Il est mal élevé, il est plus grand que la vie, finalement il est un peu à l'image de Dieu, c'est-à-dire excessif dans tous les sens, dans le génie et dans la mauvaise conduite.
Alors justement, dans le génie footballistique, pour le coup, c'est pour ça que vous êtes là en tant que journaliste spécialiste du football. Quels sont les ingrédients du génie de Maradona ? C'est pas les mêmes que ceux de Cruyff, par exemple.
Non. Alors Maradona, il a, si je vais le décrire en peu de mots, évidemment, de manière très, très résumée, il a une vision du jeu qui est incomparable. C'est-à-dire que vous avez cette qualité. Vous savez, aujourd'hui, il y a un cliché dans les commentaires. On parle de prise d'information. Maradona prend l'information à la seconde près sur tout le terrain. Donc, il sait exactement. Il a cette proprioception incroyable qui fait que, à tout moment, il sait exactement où sont placés tous ses partenaires, tous les défenseurs, etc. Donc, il y a déjà ça. Une sorte de vision périphérique, presque celle d'un insecte. Et puis, il a autre chose. Il a un toucher de balle et une conduite de balle que je n'ai jamais vue de ma vie. J'ai eu la chance de le voir jouer, de le voir s'entraîner pendant la Coupe du Monde 90 au centre d'entraînement de Rome à Trigoria où était l'équipe d'Argentine. Le ballon, quand il court, le ballon ne s'éloigne jamais de son pied.
Comme collé au pied.
10-15 centimètres. Après, c'est lui qui décide une touche de balle plus longue s'il veut faire une accélération ou se décaler sur le terrain. Mais il a cette capacité d'aimanter le ballon qu'on retrouve chez Messi, mais plus encore chez Maradona. Et puis une fantaisie, une créativité. Maradona, c'est quelqu'un de désinhibé dans la vie. Et il est aussi sur le terrain. Il ose tout. Et c'est à ça qu'on reconnaît, pardon, le génie.
Alors, puisque vous me parlez de Maradona, de Naples et de l'Italie, en demi-finale de la Coupe du Monde en 1990, il y a un match très particulier entre l'Argentine et l'Italie. Et Schillaci, qui était presque une vedette d'un jour, qui était la vedette de cette équipe d'Italie, un attaquant efficace, disait « Si ce match s'était déroulé ailleurs qu'à Naples, l'Italie aurait peut-être, voire certainement, atteint la finale et peut-être gagné sa Coupe du Monde. » Bon, ça n'engage que lui. Mais il y a eu une espèce de schizophrénie du public napolitain. Racontez-nous ça.
Bien, évidemment, Italie-Argentine à Naples. Tout le public, le public italien, local, qui a eu des billets pour le match, est déchiré. Entre son idole Maradona, son idole de tous les jours, de toutes les semaines, et son pays de cœur. Quelle Italie ! Et il n'y a pas plus grand que de voir son pays de cœur remporter la Coupe du Monde. On a bien connu ça, nous, les Français, après une longue attente en 98. Et le crime que connaît Maradona, c'est en fait de faire perdre l'Italie. Parce que l'intérêt aurait été que l'Italie gagne au tir au but, par exemple, et aille en finale. Ça n'aurait finalement rien changé au destin de l'Argentine qui avait gagné 4 ans plus tôt. Mais en gagnant, en éliminant l'Italie au tir au but avec son équipe, comme la Yougoslavie au tour précédent, Maradona met tout en l'air. La passion des Italiens, mais aussi le business de la Camorra, qui en fait en est réduit à brûler tous ces objets, tous ces maillots, ces colifichets à l'image de l'Italie. Tout ça part à la poubelle. Et donc Maradona fait perdre des millions de lire à l'époque à la Camorra. Et clairement, on peut dire que c'est le début de la fin, de la rupture entre Maradona et son milieu napolitain.
Et il se retrouve à Séville après.
Il se retrouve à Séville après un an et demi de suspension. Et puis bon, on ne verra plus jamais le
joueur. C'est le début de la fin, quoi.
Oui, c'est le début de la fin, on peut le dire.
Je marche seul dans Buenos Aires. Personne ne demande qui je suis. Dans cette ville, dos à la mer, qui vibre encore de l'Italie. Je marche seul dans Buenos Aires. Je sais que je n'ai rien compris, mais cette odeur m'est familière, comme un secret jamais écrit. Buenos Aires, un port à l'envers, où les marins restent à leur bord. Les Argentins rêvent d'hier, et puis des chants du mal d'aurore. Dans le carré de tes artères, américaines dans l'esprit. Des transversales singulières, me disent André, si tu me suis, je te prouverai le contraire. Si tu pénètres dans ma nuit,
affaires sensibles sur France Inter.
Je marche seul dans Buenos Aires. Je ne veux que personne ici m'explique ce que je dois y faire. Je sais pourquoi je suis ici. Je marche seul dans Buenos Aires, qui s'étale comme la lune.
Geoffroy Carretier, trois clubs italiens se retrouve cette année dans la finale des trois Coupes d'Europe. Alors, ça nous renvoie au temps béni, enfin si on aime le foot italien, hein, des années 80 et 90, l'Italie était la patrie du foot. Les grands joueurs allaient y jouer, et il n'était pas rare de voir plusieurs clubs en finale. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça, aujourd'hui, ces trois clubs en finale?
Oui, ça faisait 29 ans que ce n'était pas arrivé, 80-94, c'est un événement. Ça nous raconte plusieurs choses. La première, c'est que si vous voulez être quelque chose, le mieux, c'est d'avoir été quelque chose.
Oui, d'accord. Bon postulat.
Et c'est le cas de l'Italie, parce qu'on a beau dire l'Italie avait disparu de la scène, que l'Angleterre et l'Espagne avaient tout pris en termes de lumière et de titres. Mais l'Italie a eu gagné des titres, la Fiorentina a gagné la Coupe des Coupes en 61, la Roma la Coupe des Villes de Foire en 61, la Fiorentina était finaliste de la Coupe des Champions en 57, l'Inter et le Milan ont gagné trois Coupes d'Europe d'affilée en 63, 64, 65. Donc ce terreau-là, finalement, n'a jamais été abandonné. À un moment, il était un peu en friche, il était un peu enfoui, comme ces plantes du désert, là, mais avec quelques gouttes d'eau, une pluie torrentielle, et hop, tout refleurit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Italiens ont eu, à un moment, une époque de déshérence économique, ils n'avaient plus d'argent, mais du coup, ils ont eu l'intelligence, parce qu'ils ont une grande intelligence et un savoir-faire, de repartir aux bases, de devenir des nains intelligents, de travailler sur la formation, sur la tactique des entraîneurs. Les entraîneurs sont devenus encore meilleurs qu'ils ne l'étaient jadis, on le voit même en Angleterre, avec des clubs, des gens comme De Zerbi à Brighton, on ne parle pas de Carlo Ancelotti ou de Mancini qui ont fait leur preuve, de Spalletti, de Maurizio Sarri, qui redeviennent des influenceurs du foot, et ça se traduit à nouveau dans les faits, parce que le savoir-faire ne disparaît jamais.
Merci beaucoup, Geoffroy Carretier.
Avec plaisir.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Maradona, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Teboul. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Sylvie Fagnard, Margot Pinel, Franck Cognard, Adrien Mora et Adrien Cara. Documentation sonore, Claire Tesser. Chargée programme, Rebecca Denante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Franck Cognard. Réalisation, Hélène Bisio, Frédéric Milano, David Leprince et Stéphane Combe.